Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle.
Et vous
prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir.
Voilà.
Ah, c'est lui.
Oh, j'ai oublié de remonter.
Voilà, asseyez-vous tous là. Monsieur Haché, vous avez votre fauteuil réservé qui est là. Ça va? Bon, alors, on a en principe terminé la troisième partie du catéchisme. On va commencer la quatrième. Je voudrais quand même rajouter certaines choses. Je suis un petit peu vite la dernière fois. J'ai retrouvé d'autres documents que j'avais oublié concernant le devoir d'État. Donc je vous rappelle, bien connaître les quatre grandes parties du catéchisme. Selon le Concile de Trente, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire d'abord, le credo, ce qu'il faut faire, les commandements, ce qu'il faut désirer, les demandes du Notre Père. On inclut là-dedans les vertus et l'opposé de la vertu, à savoir le péché. Et enfin, les moyens de mettre tout en pratique, les sacrements. Donc, on a déjà vu le credo, les commandements, les sacrements. Et je vais commencer la dernière partie, à savoir la prière, les vertus et le péché. Je voudrais d'abord rajouter quelque chose concernant le devoir d'État et les conseils évangéliques. Auparavant, deux petites notes avant que j'oublie, parce que pour ceux qui m'écoutent sur Internet, donc il y a déjà un certain nombre de gens qui très gentiment... on voit directement sur mon compte une petite aide tous les mois, mais que ces gens me préviennent pour que je puisse remercier les gens, parce que parfois j'ai de l'argent qui arrive et j'arrive même pas à savoir de qui ça vient, parce que la banque ne me donne pas le nom et l'adresse des bienfaiteurs. Donc je voudrais pouvoir garder le nom et l'adresse des bienfaiteurs d'abord pour remercier les gens. Je le fais systématiquement, et donc les gens m'écrivent un petit mot en disant: voilà, monsieur l'abbé, à partir d'aujourd'hui vous recevrez 3 millions d'euros tous les jours sur votre compte. Bon, ça je sais, je prendrai un petit mot de recours.
Vous pourrez partager.
Hein? Voilà, je ferai un petit bout si vous êtes sage. Deuxième remarque pour les retraites, encore une fois, n'attendez pas trop, on est à 24 déjà. 24 inscriptions fermes pour les retraites, donc j'ai presque plus de deux retraites pleines déjà. Donc encore une fois, de retraite pleine en tout, c'est-à-dire qu'il y a 24 personnes inscrites pour l'ensemble des 6 retraites. Il n'y a aucune des retraites qui est pleine, pas encore, mais ça arrive très vite, donc surtout pour les paroissiens habituels, mais n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Pour vous expliquer un petit peu l'importance fondamentale d'une sainteté de vie personnelle, deux choses sont nécessaires, je vous l'ai déjà dit, je vous redirai souvent, à savoir l'étude d'une part, et d'autre part la prière, la prière et les sacrements, pour arriver à tenir le coup. On vit dans un monde de fous, et donc parce qu'on vit dans un monde de fous, on a encore plus besoin qu'avant de l'aide du bon Dieu. Le bon Dieu nous oublie pas, hein, mais dans certaines périodes très troublées de l'histoire, on a besoin encore plus d'aide. Donc on a besoin encore plus des sacrements, besoin encore plus de la prière, besoin encore plus des sacrements de pénitence, sacrements de la Sainte Eucharistie. Encore une fois, au temps du Moyen-Âge, l'ensemble général de la société était quand même sous l'influence catholique. Le catholicisme était partout. Donc on arrivait à s'en tirer avec la prière du matin, la prière du soir, et puis la messe du dimanche, je dirais. Pourquoi? Parce que l'église catholique était partout. Il y a des moines partout, il y a des prêtres partout, des églises partout, des monastères partout, des hôtels de Dieu partout. Donc c'était relativement facile. Ça, c'est fini, c'est terminé. Et je voudrais vous donner quelques exemples. J'ai reçu ça, je vais pas tout vous lire, c'est un peu trop long. Mais je voudrais vous donner un petit peu certaines citations des membres du gouvernement ou d'amis des membres du gouvernement pour Qu'on sache quand même un peu que les catholiques sachent un peu à quelle sauce ils cherchent à nous manger. Vous allez hurler, mais vous allez voir un peu ce qu'ils racontent. C'est absolument ahurissant. J'ai toutes les références. Ça, c'est un message que j'ai reçu. Je trouve ça intéressant. J'ai pas le temps de tout. Je vais pas tout vous lire, mais j'ai toutes les références ici. Voilà ce que disent les grands pontes du gouvernement français. Où est-ce qu'il en reste? Les enseignants officiels. Citation, ce qui est cause, l'hétérosexualité en tant que norme. Il nous faut essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne sera pas normale. Et ce qu'ils veulent mettre dans la tête de nos enfants, c'est qu'il n'est pas normal pour un homme et une femme d'être ensemble dans le mariage. Voilà. Deuxième citation, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Point. Sénatrice PS, 5 avril 2013. Laurence Rossignol, avec un charmant nom. Là, ce qu'il sort. Alors là, accrochez-vous. Vincent Peillon, Le Figaro, 2 septembre 2012. Le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s'émanciper. Il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. Toute l'opération, Vincent Peillon, de nouveau. Toute l'opération consiste bien avec la foi laïque à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ et à terrasser définitivement l'Église. Il faut donc à la fois déraciner l'empreinte catholique qui ne s'accommode pas de la République et trouver en dehors des formes religieuses traditionnelles une religion de substitution qui arrive à inscrire jusque dans les mœurs les cœurs, la chair, les valeurs et l'esprit républicain sans lesquels les institutions républicaines sont des corps sans âme qui se préparent à tous les dévoiements. La laïcité française, tout ça c'est Vincent Peillon dans un de ses bouquins. La laïcité française, son ancrage premier dans l'école est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé, ce seront les hussards noirs de la République. Il faut toucher un maximum de gens avec des messages subversifs et politiques. Bon, j'en passe parce que sinon, vous n'allez pas dormir cette nuit. Il faut comprendre qu'on est dans une époque où le bon Dieu demande de plus en plus l'héroïsme. Ça, c'est sûr et certain. Et donc l'héroïsme, c'est d'abord un héroïsme que nous sommes incapables d'obtenir par nous-mêmes. Cette théorie, il doit venir du bon Dieu. Alors je ne dis pas tout ça pour qu'on se dise, bon, il ne fallait plus qu'un tirer une balle dans la tête et puis c'est la fin des haricots. Non, pas du tout. Parce que le bon Dieu, si le bon Dieu donnait des grâces avant pour que les gens conservent la foi au début pendant les grandes persécutions, il va nous donner les mêmes grâces aujourd'hui. Sauf que vraisemblablement, ce ne sera sans doute pas des grandes persécutions physiques, c'est des persécutions morales. C'est-à-dire détruire l'usage normal de l'intelligence. Et c'est ce qu'il cherche à faire. D'où l'importance de l'étude. Étudiez, connaissez votre catéchisme, je vous félicite de venir ici. Bon, c'est important. Le nombre, je suis absolument sidéré encore du nombre de gens qui contactent sur le site et qui se rendent compte qu'ils n'ont plus rien dans l'Église moderne. J'ai eu hier un message, ou avant-hier, d'un séminariste dans l'Église moderne, dans l'Église de Vatican II. Donc, il veut devenir prêtre. Et il est allé, parce qu'il ne connaît rien, il est allé voir son curé, qui l'a envoyé à le séminaire officiel de la région, avoir les prêtres en charge du mouvement de la néo-catéchuménale, du mouvement de la mission, tous ces machins-là. Mais heureusement qu'il a encore un peu de bon sens, parce qu'il s'est rendu compte tout de suite qu'il manquait quelque chose. Bon, alors comment aller savoir comment ce gars-là a fini par découvrir le site? Par le site, commence à écouter les catéchismes. En écoutant les catéchismes, il a compris qu'il y avait une petite différence de détail entre les catéchismes que l'abbé Lafitte enseignait et le catéchisme qu'il avait dans ses mouvements à la noix dans l'église de Vatican II. Bon, Alors, vous savez, on voit bien comment le bon Dieu continue de travailler avec les hommes. Il ne nous abandonne pas, hein. Même quand il y a en face de nous des gens qui cherchent tout casser, le bon Dieu ne nous abandonne pas pour autant. Il ne faut pas se décourager. Alors, la dernière fois, donc, c'est dans le catéchisme de Saint Pie X, il y a à la fin des commandements de Dieu, des commandements de l'Église, une partie, je vous l'avais dit, sur les conseils évangéliques. Donc, j'avais déjà expliqué ça la dernière fois. Trois conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Pauvreté, chasteté, obéissance. Donc, il faut bien comprendre, j'ai été un peu vite la dernière fois, comment tout ça est lié. Donc, vous avez trois concupiscences. Tout vient des concupiscences. La concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil. Les yeux, la chair, l'orgueil. Donc, pour vaincre la concupiscence des yeux, eh bien, l'Église va donner évidemment la vertu de pauvreté ou l'esprit de pauvreté. Donc ici, dans la partie du catéchisme qui nous préoccupe, à savoir les conseils évangéliques de pauvreté. Puisque nous avons péché avec les yeux, il va falloir rattraper tout ça. Comment on rattrape? Puisque nous avons péché avec les yeux, donc la pauvreté va être rattrapée en quelque sorte, les fautes commises avec les yeux, à cause de la concupiscence des yeux vont être rattrapées par ce qu'on appelle l'aumône. D'accord? Après, la chair, c'est évidemment la chasteté. Pour rattraper les péchés de la chair, eh bien l'Église nous donne une deuxième chose. Quelle est la deuxième chose qui arrive ici? Hein?
Pénitence.
Non. Enfin, une pénitence, oui, mais quelle pénitence? Le jeûne. Et enfin, l'orgueil. Ça, c'est... Pour rattraper l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir, pour contrer la concupiscence de l'orgueil, il va falloir l'obéissance. Et pour rattraper les défauts, les péchés d'orgueil du passé, il faut cette fois-ci la prière. Et là, vous retrouvez une partie très importante du catéchisme, l'aumône, le jeûne, la prière. Les trois grands moyens de rattraper les péchés du passé. Ça, j'en parlais, c'est un bon sermon dimanche prochain, parce qu'on arrive à la Septuagésime déjà dimanche. Eh bien, la Septuagésime, c'est ça, c'est une préparation au carême. C'est pas encore le carême, il y a déjà la couleur violette qui arrive, il y a déjà le Gloria qui saute. Pourquoi? Pour nous rappeler que le mercredi naissant arrive, aumône, jeûne, prière. Donc, aumône, jeûne, prière sont les trois grands moyens donnés par l'Église, par le bon Dieu, par son Église, pour nous aider à rattraper les conséquences en nous du péché originel, à savoir la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. D'où la nécessité, évidemment, de pratiquer, et c'est ce qu'on appelle les trois conseils évangéliques, à savoir la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Alors vous n'êtes pas, bien sûr, vous, tenu, je vous l'ai expliqué la dernière fois, à un vœu de pauvreté, à un vœu de chasteté, à un vœu d'obéissance. Ça, c'est simplement pour en tant que tel pour les moines. Les religieux sont tenus par ces trois vœux. Mais on est tenu par l'esprit des trois vœux. Alors j'ai retrouvé des textes anciens là, que j'avais écrits il y a longtemps. J'aurais dû mettre dans le polycopier. Je ne l'ai pas fait, alors je voudrais vous les donner maintenant parce que ça va vous aider à bien comprendre. Je pense qu'il faut avoir les idées claires là-dessus. En plus, ça, c'est une bonne introduction, je crois, à la quatrième partie du catéchisme, à savoir la prière. Donc voilà ce que j'écrivais il y a longtemps. En fait, ça c'est le bénéfice, mais c'est d'abord, j'espère, l'esprit de l'Église. Tous les hommes sont tenus par la loi générale de Dieu sur ces créatures raisonnables, à savoir le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Ça c'est pour tout le monde. Mais à ceux qu'il aime de façon plus particulière, notre Seigneur Jésus-Christ propose de suivre les trois conseils évangéliques de pauvreté, pour juguler la concupiscence des yeux, de chasteté contre la concupiscence de la chair et l'obéissance contre l'orgueil de la vie. Donc on retrouve les trois concupiscences que j'ai mises au tableau. N'aimez point, citation, 1er épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et où je couvre Saint-Jean. Hein. Saint-Jean, c'est Saint-Esprit, attention. Hein. C'est-à-dire, l'enseignement de Saint-Jean, c'est l'enseignement du Saint-Esprit, parce que c'est protégé par la révélation. Hein. Tout ce qui est dans le monde vient, ne vient point du Père, mais du monde. Hein. Donc, tout ce qui est dans le monde, la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Hein. Le bon Dieu ne nous demande pas, évidemment, de vivre comme des hommes de Cro-Magnon, ou de vivre comme des anges ici-bas. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Mais il nous rappelle qu'il y a un combat. Hein, celui qui veut venir après moi, donc il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ceci va être manifesté par l'attribution, par ces trois choses, à savoir l'aumône, le jeûne et la prière. L'aumône, jeûne et prière. Et c'est la raison pour laquelle, pendant le carême, l'Église nous demande de pratiquer surtout ces trois choses. Et ça aide à comprendre pourquoi, en France au moins, c'est la coutume de demander le denier du culte pendant le temps du carême. Pourquoi ? Parce que ça correspond au monde. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle il y a le denier du culte pendant le carême, qui est une coutume typiquement française d'ailleurs. Il n'y a pas de denier du culte dans les pays de langue anglaise, ça n'existe pas. Et donc il faut bien comprendre le lien entre tout ça. Les hommes bien-nés, surtout les catholiques, sont donc tenus par l'esprit des vœux. Attention, vous n'êtes pas tenus aux vœux, mais vous êtes tenus par l'esprit des vœux. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde, c'est l'inimitié de Dieu. Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Là, c'est l'épître de Saint Jacques, chapitre 4. Donc, trois choses qu'il va falloir pratiquer, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et ceci va nous aider à comprendre l'importance de la prière. Vous voyez, l'aumône et le jeûne, en quelque sorte, sont deux moyens que nous donne la Sainte Église pour ouvrir la porte du troisième moyen, à savoir la prière. Et les anciens parlaient beaucoup plus que nous aujourd'hui de ces choses-là. Quand vous lisez, par exemple, les pères de l'Église sur le sujet, pour eux, l'aumône, le jeûne et la prière étaient quelque chose d'absolument fondamental. Alors, on comprend pour la prière... quant au jeûne et à l'aumône, pour la plupart des catholiques, même parfois dans la tradition, ça passe complètement à côté de la plaque. Ils ne se rendent plus compte du tout que le jeûne et l'aumône sont des choses nécessaires. Bon, il est évident qu'il faut du bon sens. Hein. À l'époque des pères de l'Église, ben, les pauvres, il y en avait partout. Donc, évidemment, une des premières obligations des évêques, c'était d'organiser l'aide aux pauvres. C'est pour ça que c'est l'Église qui a fondé tous les hôpitaux, tous les hôtels Dieu, toutes les léproseries partout. Tout ça vient de l'Église, par les aumônes. Bon, alors aujourd'hui, il est évident que la situation a un peu changé, mais c'est resté dans l'esprit de l'Église par ce qu'on appelle le denier du culte. La quête, c'est ça. La quête, c'est quoi ? C'est l'aumône. D'abord, à cause de la phrase de notre Seigneur, celui qui travaille à l'hôtel, qui vive de l'hôtel. On expliquera ça plus tard. Donc, le jeûne, lui aussi, c'est une chose qui est complètement sortie de l'esprit de la plupart des gens. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ recommande le jeûne ? Parce que le jeûne est le premier moyen donné par l'Église pour lutter contre les tentations d'impureté. On n'y pense pas. C'est pour ça que les moines du désert faisaient des jeûnes absolument invraisemblables. Je ne vous demande pas, d'ailleurs, pour les admirer, surtout les imiter pas. Je ne vais pas vous demander de passer 40 jours de carême en mangeant 3 grains de citron, comme le faisait Sainte-Catherine de Sienne ou Sainte-Rose de Lima. Bon, mais il faut quand même se rappeler les principes. Alors, la pauvreté, c'est quoi ? Alors, notre Seigneur Jésus-Christ commence, hein, il ne faut pas oublier ça, notre Seigneur Jésus-Christ commence la liste des béatitudes par la pauvreté. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est la vertu de pauvreté qui est nécessaire pour limiter au maximum la concupiscence des yeux. Une certaine donc simplicité de vie est nécessaire pour ne pas être contaminé par l'esprit du monde et son matérialisme. Donc si vous voulez arriver à vous préserver de toutes ces horreurs que le gouvernement nous prépare contre nos enfants, contre les familles, pour détruire tout ça, qu'est-ce qu'il faut ? Mais il faut la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Esprit de pauvreté, esprit de chasteté, esprit d'obéissance. Hein ? C'est, pour ceux qui ont fait les exercices, tout à fait au début des exercices, c'est la deuxième partie du principe et fondement. Les choses qui sont sur la terre, dit-il, sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit faire usage des créatures autant qu'elles le conduisent vers sa fin, mais qu'il doit s'en dégager autant qu'elles l'en détournent. Je ne m'en parle pas encore une fois de vivre comme des moines, Mais attention, il y a une nécessité pour nous de pratiquer cet esprit de simplicité, cet esprit de pauvreté en esprit, qui est un esprit d'humilité, un esprit de simplicité, qui va nous permettre justement de garder sous contrôle la concupiscence des yeux. Donc quand vous associez les deux choses, il faut bien comprendre que le démon travaille avec, c'est comme avec, si vous voulez, une guitare à trois cordes, il va travailler avec les trois cordes. Donc les yeux, la concupiscence des yeux, souvent va amener la concupiscence de la chair. On le voit bien aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on essaie de couvrir littéralement l'âme moderne par les choses matérielles pour que l'âme moderne n'ait plus la protection de l'esprit de simplicité, l'esprit d'humilité, et donc tombe plus facilement dans les péchés de la chair. Une fois tombé dans les péchés de la chair, à ce moment-là, c'est l'orgueil qui arrive, qui fait ce qu'il veut, qu'elle veut, d'accord ? Donc, plus on se rapproche de Dieu, plus automatiquement on se détache des créatures. C'est une espèce de balance, système de balancier. Plus on se rapproche du bon Dieu, plus on s'éloigne d'être des créatures. Attention, le bon Dieu ne nous demande pas, encore une fois, de ne pas utiliser les choses de ce monde, mais il nous demande de ne pas d'arrêter de trop les aimer. Donc, aimer les choses d'utiliser les choses de ce monde, oui. Trop aimer les choses de ce monde, non. Rappelez-vous la phrase de saint Augustin, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste, l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. Et ça, il faut l'inculquer à nos enfants. Hein. Et attention, ce n'est pas quand les enfants arriveront à 15-20 ans ou 18-20 ans que vous allez arriver à inculquer ça. Hein. Cet esprit de simplicité qui est tellement important, il faut le mettre dans l'âme de nos enfants dès le début. D'où l'importance de cette vie de prière. Et pourquoi les gens ont tellement de mal à prier aujourd'hui ? Ils ont tellement de mal à prier aujourd'hui parce qu'ils ont perdu l'esprit de pauvreté. Ils ont perdu l'esprit de pauvreté parce que le monde moderne leur donne tout et donc ils n'ont plus rien demandé. Donc constamment, le démon, en quelque sorte, va couvrir notre âme, si vous voulez, de tellement de choses matérielles qu'on ne soit plus capable de voir les choses, de comprendre l'importance des choses spirituelles. Alors attention, d'où l'importance d'avoir un minimum d'esprit de simplicité, de sortir au maximum du crédit, de ne pas vivre au-dessus de vos moyens, au-dessus de nos moyens, voilà pour moi aussi d'ailleurs, voilà pour tout le monde. Bon, certes, il faut un minimum, c'est sûr, le bon Dieu ne vous demande pas de vivre comme un miséreux, mais attention à aider nos enfants à comprendre l'importance de cet esprit de pauvreté. Après, l'esprit de chasteté, donc ça c'est la lutte contre la concupiscence de la chair, donc les conseils évangéliques de chasteté qui va correspondre au jeûne. Encore une fois, on retrouve dans les béatitudes, bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Donc c'est encore plus fort, je dirais, que la conséquence de la première béatitude, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Là, avec la pureté, c'est encore plus direct. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il faut tout de suite, j'ai déjà expliqué ça longuement, un traité sur le mariage, mais bien comprendre que l'esprit de chasteté est nécessaire à tous les hommes, y compris les gens qui sont dans l'état de mariage. Pas parce que les gens sont mariés, qui ont le droit, ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Il y a des citations de l'Écriture sainte qui sont très extrêmement, extrêmement fortes. Hein. Sachez-le bien, aucun fornicateur, aucun impudique n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Hein. Il y a une longue liste de saint Paul, il y a plusieurs endroits où saint Paul en parle. Hein. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que parmi tous ceux qui s'opposent à cette longue liste d'ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, donc les impudiques, les fornicateurs, etc., et il parle souvent des infâmes. Les infâmes, c'est les sodomites, hein, ceux-là qu'il appelle les infâmes. L'Église, par délicatesse, ne traduit pas le latin. En latin, le terme est extrêmement fort. Hein, et le terme utilisé en latin, il ne fait aucun doute que c'est bien le péché de sodomie qui est visé par là. Hein. Ne savez-vous pas, dit saint Paul, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si donc quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prenant donc les membres du Christ, en ferai-je les membres d'une prostituée? Vous n'êtes plus à vous-même car vous avez été achetés à grand prix. Il y a tout ce magnifique serment de Saint-Léon pour la fête de Noël, les matines de Noël, où Saint-Léon nous demande de nous rappeler à quel était le prix de notre rachat. Maintenant que nous avons été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il faut faire attention justement à ne pas retomber là où on était tombé avant. C'est Saint-Pierre aussi qui parle de la truie qui retombe à son vomi, qui retombe à sa boue. Donc, attention donc à cette importance du jeûne. Certes, l'Église n'oblige plus actuellement, on a vu ça la dernière fois, je crois déjà expliqué ça, l'Église n'oblige plus le jeûne. Le jeûne n'est plus obligatoire tous les jours du carême, puisque pendant le carême, d'après les règles de Pie XII, seuls deux jours sont obligatoires, à savoir le mercredi des cendres et le vendredi saint pendant le carême. En plus, j'avais déjà expliqué la dernière fois, la vigile de l'Immaculée Conception et la veille de la vigile de Noël. Mais il est quand même bon d'essayer de faire un minimum de jeûne pendant le carême. Pas dire, ben, je jeûnais simplement le mercredi des cendres et le vendredi saint. Bien sûr, c'est obligatoire, mais c'est le minimum. Donc, c'est comme quand l'Église nous demande de communier au moins une fois l'an. Ben, c'est vraiment le minimum. Celui qui communique une fois l'an, c'est pas comme ça qu'il va s'en tirer. Ben, c'est pareil pour le jeûne. Donc, il y a quand même l'obligation, à mon avis, pendant le carême, de jeûner un peu plus. Bon, chacun le fait selon ses pouvoirs physiques, ses possibilités physiques. Rappelez-vous que le jeûne, en soi, strictement parlant, n'est obligatoire que pour ceux qui à partir de 21 ans, 60 ans. Cependant, même les vieux comme moi, on est quand même tenu de faire un minimum de jeûne, même si on appartient au troisième âge. Parce que j'appartiens au troisième âge, il paraît. Bon. Il faut réaliser tout ça, d'où l'importance du jeûne. Et en plus, c'est très bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Mais il faut aider nos enfants à comprendre ça. Et donc, je vous conseille, par exemple, pour tous ceux qui le peuvent, c'est pas toujours possible, il faut voir. Encore une fois, il faut du bon sens, mais je pense que c'est une bonne chose au moins de jeûner le vendredi pendant le carême. Au moins. Certaines personnes jeûnent le samedi ou le mercredi, le samedi en l'honneur de notre Sainte Vierge Marie, le vendredi en l'honneur de la Passion de notre Seigneur. Mais avoir un minimum, apprendre aux enfants, surtout un minimum d'esprit de pénitence. Et les enfants, je sais quand on leur explique, ils comprennent vite. L'enfant comprendra très bien par lui-même que il peut manger du pain sec pendant tout le carême ou ne pas prendre de sucre pendant tout le carême, il ne va pas en mourir. Enfin, troisième conseil évangélique, l'obéissance, cette fois-ci contre l'orgueil. Alors, rappelez-vous que la plus terrible des trois concupiscences, c'est la troisième, l'orgueil. Donc la vertu, peut-être de ces trois vertus qu'on appelle des vertus, ce ne sont pas des vertus théologales, c'est des vertus morales. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance, ou l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, la plus importante sera l'obéissance, et en fait la plus difficile. Et d'autant plus qu'aujourd'hui on est orphelin d'autorité. Oui. D'où l'importance, la nécessité pour nous, impérativement justement, d'essayer de nous rattacher à ce que l'Église a toujours fait dans toute la mesure du possible. C'est pas toujours possible, parce qu'avant, on avait les évêques, on avait le curé du village qui allait nous dire ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est fini tout ça, malheureusement. Donc, il faut pas dire, bon, parce qu'on n'a plus d'autorité au-dessus de nous, eh bien, chacun fait comme il veut. Ben non. Qu'est-ce que l'Église a fait avant? Comment l'Église se comporte-t-elle avant? Et faire la même chose. Il y a une très belle citation de Saint Paul aux Philippiens. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en se montrant sous l'apparence d'un homme. Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est la raison, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est né dans la gloire de Dieu le Père. Magnifique texte de Saint Paul aux Philippiens chapitre 2. Voyez d'où l'importance de cette vertu d'obéissance, obéir à l'Église, faire comme l'Église a toujours fait. Encore une fois, elle ne peut pas se dire, bon, il n'y a plus d'autorité, donc chacun en fait un peu quand ça casse sa tête. Bon, c'est sûr qu'on se retrouve dans des situations dans lesquelles l'Église ne s'est jamais trouvée avant, c'est certain. Mais il faut quand même se cramponner à l'enseignement traditionnel de l'Église. N'oubliez pas que l'obéissance est une condamnation pour nous. Nous sommes condamnés à obéir précisément parce que nous sommes créatures. Le crime, si vous voulez, d'Adam et Ève, le crime du péché originel, c'est quoi? C'est d'avoir voulu prendre la place du bon Dieu. Et quand on essaie de prendre la place du bon Dieu, quand on essaie de prendre sur soi-même la gloire qui n'est réservée qu'à Dieu seul, eh bien, les conséquences sont là. Parce que, n'oubliez pas la promesse, la fausse promesse du démon à Adam et Ève, vous deviendrez comme des dieux. Et si j'estime que je deviens Dieu, si l'homme moderne prend la place du bon Dieu, évidemment, les conséquences sont là. La première conséquence, ce sera vous ne mourrez pas. Donc, on vit toujours. Deuxième conséquence, mes yeux vont s'ouvrir. Donc, je vais pouvoir faire tout ce que je vais, pouvoir tout avoir pour qu'il puisse des yeux. Et enfin, je vais pouvoir déterminer par moi-même ce qui est bon, ce qui est mal. C'est la liberté de conscience. Il est, évidemment, c'est ce que explique les pères, je crois que c'est Saint Grégoire qui dit qu'il est toujours beaucoup plus difficile de donner ce que l'on est par l'obéissance et le don de la volonté propre que de donner ce qu'on a par la pauvreté. Donner ce qu'on a par la pauvreté, c'est relativement simple. Bien relativement. Par contre, donner ce que l'on est, sa volonté propre, c'est une autre paire de manches. Les trois conseils évangéliques. L'obéissance est le plus pénible à pratiquer car l'orgueil est un péché capital très difficile à déraciner. Et là, j'ai une citation splendide de saint Thomas d'Aquin. Alors, j'ai pas la référence parce que j'ai trouvé ce texte de saint Thomas dans un des articles écrits par Carol Robinson, dont je vous ai souvent parlé, que j'ai bien connu aux États-Unis, qui avait écrit autour des années 50, qui avait préparé une petite revue mensuelle qui s'appelait Intégrité. Et dans un de ses articles, un des plus beaux articles qu'elle a écrit sur la curiosité, elle cite cette citation de saint Thomas, mais je ne sais pas exactement d'où elle l'a pris. Mais le texte est splendide. Donc elle assimile l'orgueil à la curiosité. La curiosité amène à l'orgueil. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, je ne sais pas combien de fois, que lorsque Saint Pédis condamne le modernisme, qu'est-ce qu'il donne comme racine? L'ignorance, la curiosité et l'orgueil. La curiosité, c'est ça. L'ignorance, la curiosité et l'orgueil. Voilà ce que dit Saint Thomas. La curiosité est un défaut de notre esprit qui nous incline avec force et précipitation vers la considération et l'étude de sujets moins utiles, nous poussant à négliger les choses divines et notre salut. Alors que les gens qui ont peu d'éducation mais qui sont nourris de l'évangile ont une grande rectitude de jugement. Donc ce que dit saint Thomas, c'est que la curiosité du monde moderne va nous pousser aux choses superficielles, nous faire croire que les choses superficielles sont des choses importantes pour qu'on n'ait plus le temps de s'occuper des choses vraiment importantes. En gros, puisque la nature a toujours horreur du vide, le monde moderne, par l'orgueil, va nous pousser à remplir notre cœur, notre âme avec des choses complètement superficielles pour qu'on n'ait plus de place pour les choses importantes. Et voilà ce que dit saint Thomas. Par contre, dit-il, il existe d'autres personnes qui, au lieu de se nourrir profondément des grandes vertus chrétiennes, passent la plupart de leur temps à emmagasiner des connaissances inutiles ou moins utiles et qui ne forment pas le jugement. Elles sont affligées, dit-il, d'une manie de collectionner les faits par accumulation de connaissances mécaniquement arrangées, non organisées, un peu comme un dictionnaire. Ce genre de travail, au lieu d'exercer l'esprit, l'étouffe comme trop de bois étouffe le feu. Cet amas de connaissances accumulées, ils ne peuvent plus voir la lumière des premiers principes qui seuls pourraient amener de l'ordre à tout ce matériel et relever leurs âmes vers Dieu, le commencement et la fin de toutes choses. Citation splendide de saint Thomas. Et qui nous rappelle où sont les choses essentielles. Et quand on a rempli, on reconnaît qu'on a rempli complètement notre âme avec les choses matérielles, avec les choses superficielles, par l'orgueil et par la concupiscence des yeux surtout, eh bien il faut arriver à ouvrir la fenêtre et mettre tout ça dehors. Et c'est pas évident, c'est la raison pour laquelle il faut en quelque sorte aller contre notre nature humaine viciée par le péché originel, même après la disparition du péché originel par le baptême, n'oubliez pas qu'il demeure les blessures du péché originel. On est blessé par la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil, donc il va falloir pratiquer ces choses qui vont tellement contre notre volonté propre. L'aumône, le jeûne et la prière, c'est trois choses qu'on déteste naturellement. Naturellement, le monde moderne fait tout pour nous pousser contre l'aumône, contre le jeûne, contre la prière. Il nous pousse à l'aumône, oui, pour des choses complètement superficielles. Alors, pour aller sauver les bébés phoques ou je ne sais pas trop. Alors, d'accord, Et puis, on ne se rend même plus compte où sont les choses vraiment importantes. Alors, pour finir, donc, c'est aussi en même temps une introduction, si vous voulez, à la partie concernant le péché, concernant la prière, excusez-moi, les demandes du pater. La prière, c'est ça, c'est quoi? C'est apprendre à savoir qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il faut désirer. Ce qu'il faut désirer, c'est le pater, notre père. Eh bien, donc, ces conseils évangéliques, cet esprit des conseils évangéliques, avant, été donné, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, a été donné par les tiers-ordres. Tiers-ordres, c'était ça. Tiers-ordres de Saint-Benoît, tiers-ordres de Saint-Dominique, tiers-ordres des Carmes, tiers-ordres de toutes sortes de tiers-ordres, quels qu'ils soient, tiers-ordres de la Fraternité de l'Église. Eh bien, c'était, dans l'esprit des fondateurs, c'était toujours la pratique des trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, adapté au monde moderne dans lequel on vit pour des gens qui vivent dans le monde. Et donc, c'est les tiers ordres, quels qu'ils soient, vont faciliter l'esprit de ces trois conseils évangéliques. Suivant la grande règle de notre Seigneur, en Saint Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » J'ai quelques textes qui expliquent un petit peu l'esprit d'un tiers-ordre. C'est évident, pas les dents qui courent, ben, les tiers-ordres, il n'y a plus rien. Ne rentrez surtout pas dans les tiers-ordres de modernes, parce que vous allez perdre la foi. Mais qu'est-ce que l'esprit du tiers-ordre? C'est l'esprit de l'Église, tout simplement. Sa foi vivante, manifestée par toute sa tradition, son magistère infaillible, exprimé, exposé dans le catéchisme du Concile de Trente. Et c'est intéressant, c'est une citation de Mgr Lefebvre. Écoutez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant, j'ai pas vu ça. L'esprit du tiers-ordre est l'esprit de l'Église, sa foi vivante manifestée par toute sa tradition, son magistère infaillible, exprimé et exposé dans le catéchisme du Concile de Trente, dans la Vulgate, la Bible, dans l'enseignement du docteur angélique Saint Thomas d'Aquin, dans la liturgie de toujours. Vous voyez qu'il ne dit pas que le magistère infaillible, c'est uniquement quand, pour les choses extraordinaires, dans le magistère extraordinaire des papes. Parce qu'il dit du tout. Ne pas frapper ça, ça me frappe à la lecture. Non, ce magistère infaillible de l'Église exprimé, exposé dans le catéchisme. Donc il me dit bien, ça veut bien ce que ça veut dire, c'est tout à fait vrai. Que le catéchisme, c'est déjà quelque chose d'infaillible. Pourquoi le catéchisme, c'est tout l'enseignement de l'Église. Vous voyez ? Donc esprit d'attachement à l'Église romaine, au pape avec un grand P évidemment, les papes jusqu'à Pie XII. Aux évêques, avec un grand E, esprit d'obéissance aux autorités de l'Église, évidemment, au moment où l'Église était avant Pie XII, bien sûr, selon leur fidélité à la finalité de leur charge. Donc fidélité à la finalité de la charge pour laquelle vous êtes sur la terre, qu'il est autre que de répandre la foi catholique et le règne de notre Seigneur. La finalité des papes, la finalité des évêques, répandre la foi catholique et le règne de notre Seigneur. Quand on compare ça à toutes les bêtises, les inepties et les hérésies que sort à longueur de journée Bergoglio maintenant, ça laisse un peu rêveur. Esprit de vigilance à l'égard de tout ce qui peut corrompre la foi et redécouvrir l'importance capitale du Saint-Sacrifice de la Messe et de son mystère. Vous voyez, c'était des conseils que Mgr Lefebvre donnait pour expliquer l'esprit des trois conseils évangéliques. Vous voyez ? On peut dire tout ce qu'on veut sur un caractère, une partie un peu pénible, si vous voulez, dans Mgr Lefebvre. Pourtant, Dieu sait, si j'aime Mgr Lefebvre, qui m'a entièrement formé, ben, il est sûr que Mgr Lefebvre avait une espèce de système de balancier. Bon, on ne sait plus très bien toujours où on allait, parce qu'il n'a pas voulu, malheureusement, déclarer le siège vacant. Mais enfin, il était certain, pour moi, en tout cas, c'est certain qu'il y arrivait. On voit bien que, mais cependant, dans Mgr Lefebvre, même pour ceux qui, il y en a beaucoup, je comprends, qui sont choqués, peinés de voir que Mgr n'a jamais déclaré le siège vacant, il y a des choses qu'il a écrites en matière spirituelle. J'ai écouté dernièrement, j'ai récupéré, on m'a envoyé, ça vient d'être publié par Écho, j'ai vite commandé, des conférences de Mgr Lefebvre sur la Sainte Trinité, sur les attributs divins. Toute une série de textes que j'avais déjà entendu, j'ai déjà lu il y a longtemps, mais des attributs divins. L'unité, la toute-puissance de Dieu, tous les attributs divins, on l'a déjà vu dans la partie du credo, il est splendide. Je l'ai écouté plusieurs fois dans ma voiture, je vais utiliser ce texte pour vous préparer, là, si j'ai le temps, pour vous préparer les 3 jours de mission de carême. Je vais utiliser ces textes parce qu'ils sont splendides. Vous nous aidez à comprendre la toute-puissance de Dieu, à comprendre la grandeur des attributs divins. Donc je vous relis ce texte parce qu'il faut comprendre ça. Je pense que le but, si vous voulez, des conseils évangéliques, c'est de nous donner l'esprit de l'Église. Hein? Donc l'esprit de l'Église, c'est la foi, c'est le magistère infaillible de l'Église, exprimé et exposé dans le catéchisme, l'esprit d'attachement à l'Église romaine, au pape, aux évêques, dans la mesure bien sûr, où, encore une fois, où nous sommes sous des papes et des évêques catholiques, ce qui n'est plus le cas actuellement, hein, selon leur fidélité à la finalité de leur charge, qui n'est autre que de répandre la foi catholique et le règne de notre Seigneur. Ça, n'oubliez pas, hein, que ce n'est pas seulement le rôle du pape et des évêques, c'est aussi votre rôle, hein, c'est le mien aussi. Quel est notre rôle à tous? Notre rôle à tous, c'est de répandre la foi catholique et le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans les âmes dont on a la charge, à commencer par vos enfants. Et pour moi, à commencer par mes chers fidèles. Hein? Et donc, c'est ça le but de la manœuvre. Hein? Vous voyez? Alors, après, au niveau des obligations des tiers-ordres, c'est différent pour chaque tiers-ordre, on retrouve à peu près toujours les mêmes choses. Mais je pense que actuellement, par les temps qui courent, il est capital pour moi de garder cet esprit d'Église. Hein? Garder cet esprit d'Église. Et surtout, pour arriver à tenir le coup dans le monde moderne, face, si vous voulez, à l'omniprésence des concupiscences, surtout des yeux, de la chair et de l'orgueil, je crois que le plus important, il me semble, c'est l'esprit de raison. L'esprit de raison. Bien sûr que si tous nos paroissiens arrivaient à avoir, par exemple, même ne serait-ce que 20 minutes de raison tous les jours, ça changerait tout. Et je vous ai déjà donné cet exemple, quand j'étais à Brisbane, on avait un petit groupe d'élite dont j'ai eu l'honneur de m'occuper, je m'en suis bien occupé, j'espère, pendant plusieurs années. J'ai donné une conférence par mois. Une petite récollection par mois. Je ne me rappelle plus comment c'était. Mais donc, tout était basé sur vos raisons. Je leur demandais une demi-heure de raison par jour. Minimum 20 minutes pour ceux qui pouvaient une demi-heure de raison par jour. Et on avait, sur une paroisse d'à peu près 250 à 300 personnes, on avait une trentaine de personnes qui faisaient raison tous les jours. Des mères de famille, des pères de famille, des jeunes. Hein. Une demi-heure de raison tous les jours. Qui pleuvent, qui vont, tout qui neigent. Mais je vous assure, ça se voyait sur le bout de leur nez. On pouvait déterminer à l'avance quels étaient ceux qui faisaient raison. Et comme par hasard, ceux qui ont réagi très fortement à la dégringolade de Monseigneur Felet dans la fraternité Saint-Pédis pour commencer à raconter n'importe quoi, surtout en ne faisant plus cette distinction essentielle que faisait toujours Monseigneur Lefebvre entre l'Église conciliaire et l'Église catholique, eh bien tous ceux qui ont résisté étaient tous les membres qui faisaient partie de ce petit groupe. Ça m'a fait plaisir quand je suis allé au mois de septembre prêcher des retraites, hein, j'ai prêché deux retraites en Australie, à Brisbane, retraite de dames et retraite d'hommes, et j'ai donné une conférence spirituelle entre les deux retraites. Bon. Eh bien, il y avait tous les membres du groupe qui étaient là. 30, et comme par hasard, c'est tout le groupe des gens qui résistent. Ils appellent ça le groupe de la résistance. Et alors le curé, le prêtre en charge de la chapelle, d'un libéral fini, avec tout qui s'appelle un Libanais, mais qui est vraiment très libéral, il est furieux parce qu'il constate que, il a reconnu, j'étais pas peu fier d'ailleurs, il a reconnu que tous ceux qui luttent contre à Brisbane, dans la chapelle de la fraternité Saint-Pédis, qui luttent contre les changements introduits par Monseigneur Felet, c'est tous ceux qui ont été formés par l'abbé Lafitte. J'étais bien content. Hein. J'étais bien content. À tel point qu'il a, maintenant on veut dire un peu jusqu'où ils vont, le prêtre en question, quand il a des nouveaux fidèles, il interdit à ces nouveaux fidèles immédiatement de contacter, d'avoir des contacts avec les gens qui me connaissaient bien, qui étaient mes amis. Ils sont toujours d'ailleurs. Vous voyez, parce qu'il leur dit, n'allez pas les voir, vous allez vous faire contaminer. Bon, Alors c'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont contaminés dans le bon sens, parce que les gens, quand ils entendent ça un peu trop souvent, commencent à se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, eh bien, ces amis que je connais bien, eh bien, font un apostolat magnifique. Mais encore une fois, s'ils n'ont pas tout compris, il y a tout un travail qui se fait, et je maintiens que le plus important, si vous voulez, dans le combat qui est le nôtre actuellement, c'est l'esprit de raison. L'esprit de raison. Hein? Surtout pour les gens actifs. Malheur, malheur aux actifs qui ne font pas raison. Alors là, ils vont droit dans le mur. Hein. Monseigneur l'a fait demander à ces prêtres, ça c'était peu connu dans la fraternité, ils étaient bien cachés par certains, mais Monseigneur Lefebvre a demandé à tous ses prêtres d'avoir 1 heure de raison par jour. Il le souhaitait. Il n'a pas obligé. Il l'obligeait à la demi-heure de méditation tous les jours. Mais il y a plusieurs textes de Monseigneur Lefebvre où il demandait, il souhaitait à ce que les prêtres trouvent le temps d'une deuxième demi-heure de méditation tous les jours. Et je vous assure que c'est absolument nécessaire pour un prêtre aujourd'hui, pour qu'il puisse tenir le coup, d'avoir son heure de méditation tous les jours. Je ne dirais pas que les laïcs ont besoin d'une heure de méditation tous les jours. Je pense que pour les laïcs, si déjà ils avaient 20 minutes, une demi-heure, c'est déjà pas mal. Bon, déjà 20 minutes tous les jours, si tous nos fidèles avaient 20 minutes de méditation tous les jours, je vous assure que ça changerait tout. Parce que la méditation, c'est ça, l'esprit de raison, c'est ça. L'esprit de raison, c'est, ok, on est bombardé à longueur de journée par la concupiscence des yeux, la chair, l'orgueil, je coupe tout, je ferme les écoutilles, et pendant 20 minutes, je m'occupe de mon âme. Refaire le point, remettre, c'est l'arrêt de la voiture à la station-service, on fait le plein spirituel avant de repartir. C'est ça, vous voyez? Mais je pense que ce sont des choses très très importantes, parce que c'est l'esprit d'oraison qui va nous permettre d'accéder en quelque sorte à ces conseils évangéliques, l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Alors, le problème, c'est que bon, l'expérience m'a montré que pour arriver à l'oraison quotidienne, en général, il faut 4 retraites. Bon, il y a quelques exceptions. J'ai connu certaines personnes qui arrivaient à l'oraison dès la première retraite, mais c'est rare. En général, il faut 4. Bon, première retraite, ils disent, au début, quand j'étais tout jeune prêtre, je commençais déjà à prêcher les exercices, je connaissais mal, j'ai pas beaucoup d'expérience, et je disais toujours aux gens, il faut une demi-heure de méditation tous les jours. Je poussais à ça, j'obtenais rien du tout. Et maintenant, j'ai changé un peu parce que j'ai compris, et j'explique le principe de l'oraison, j'explique pourquoi c'est important, mais je dis toujours aux gens, vous affolez pas, vous n'allez pas y arriver la première fois. Et j'explique souvent, il faut 4 retraites. Et en général, à partir de la 4e retraite, les gens arrivent souvent, pas toujours, mais souvent, arrivent à comprendre l'importance de l'oraison et se mettre à l'oraison quotidienne. Et je vous assure que sur la chapelle de Brisbane, on le voyait, je dirais pratiquement physiquement. Il y avait une paix, il y avait une espèce de paix, de charité dans les gens qui faisaient oraison tous les jours. Et c'était admirable, j'étais toujours très impressionné par ces gens qui, par exemple, avant le travail, se levaient une demi-heure plus tôt, allaient, parce que beaucoup de gens habitaient à côté de la chapelle d'Oxley, c'était l'endroit où était la chapelle, un faubourg d'un des quartiers de Brisbane, une ville de 2 millions d'habitants, 1 million 6, et bien le matin, avant de partir au travail, ils allaient à la chapelle. Ils ne pouvaient pas assister à la messe le matin parce que ça ne correspondait pas à cause des horaires, mais ils allaient passer leur demi-heure à la chapelle tous les matins pour se remplir du bon Dieu avant d'aller au travail. Eh bien, ça permettait d'avoir des gens qui s'habillaient constamment correctement. Et je vous assure qu'en Australie, il faut le faire, hein, parce que c'est pas la brume, le crachin breton là-bas. Hein. Bon, il fait une chaleur à crever et l'importance de la modestie là-bas, c'est fondamental. Et je félicite tous ces gens qui ont justement réussi à tenir le coup comme ça, grâce à l'oraison. J'ai fini tout ça. L'esprit d'oraison, un dernier point, j'en ai déjà un peu parlé, mais je répète. L'esprit d'oraison va permettre aussi, donc la pratique, je vous l'ai dit, de ces 3 conseils évangéliques, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et va... Surtout permettre donc la vie de prière. Oui. Et la vie de prière, attention, la vie de prière, elle doit être préparée, là j'insiste au niveau des parents, elle doit être préparée par la politesse. La politesse surtout des petits-enfants. Que les enfants, dès qu'ils ont 4-5 ans, apprennent à dire bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Bon, un enfant qui a jamais appris à dire bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, je vous demande pardon, est incapable de prier. Qu'est-ce que c'est que prier? On peut donner de tas de grandes, belles définitions de la prière. Là, vous avez à page 83, là, sur une polycopie, la définition traditionnelle. Prier en élévation de l'esprit du cœur vers Dieu pour l'adorer, le remercier, lui demander ce dont vous avez besoin. Nous avons besoin. Très bien, c'est vrai. Mais pour un enfant, pour expliquer la prière, c'est quoi? C'est dire bonjour au bon Dieu le matin. Le soir, avant de se coucher, c'est dire bonsoir au bon Dieu. Hein? Et avant de s'adresser au bon Dieu, ben, se tenir correctement par politesse. Et ça, c'est les parents qui apprennent ça aux petits. Hein? D'où l'importance de savoir demander pardon, savoir dire bonjour, dire bonsoir, dire excusez-moi. Toutes ces choses élémentaires qui ont complètement disparu dans le monde moderne. Complètement. Au moins en France. Pas dans d'autres pays, pas toujours. C'est par exemple, ça c'est du domaine de la loi naturelle. Hein. C'est les vertus naturelles. Dans certains pays, elles existent encore. Hein. Je suis allé en Australie, vous serez sidéré. Hein. Absolument sidéré de voir que les gens disent bonjour, disent bonsoir, disent excusez-moi, disent s'il vous plaît quand ils vous parlent. Bonjour monsieur, bonjour, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Des choses comme ça qui ont complètement disparu en France. D'où l'importance, apprenez ça à vos enfants. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas quand ils ont 18 ans que vous allez leur apprendre ça. Hein. Il faut apprendre qu'ils sont tout petits. Savoir dire bonjour en regardant dans les yeux, à savoir dire bonsoir, à savoir s'excuser, à savoir se taire en présence des adultes, à savoir demander la permission avant de faire quelque chose, etc. Tout ça, c'est la politesse et qui va amener à la vie de prière. Quelqu'un qui a jamais appris à dire bonjour, il est incapable de prier, tout simplement. Vous voyez? Alors, on avance un petit peu, donc prenez maintenant, on a fini cette partie-là, donc prenez à la page 83, donc sur votre polycopier, dans la généralité sur la prière. Donc, je vous rappelle que là, donc c'est quoi? C'est la quatrième partie du catéchisme, donc qui correspond. En fait, dans le catéchisme habilis, c'est la troisième partie. Moi, je l'ai mis en quatrième parce que l'expérience m'a montré qu'il fallait toujours commencer par attirer les poissons et les ferrer. Et donc, je commence toujours les catéchismes par la partie la plus intéressante, enfin la plus susceptible de ferrer les poissons, à savoir les sacrements. Bon, j'ai remarqué que si on commence par le credo, sauf qui peut, parce que dès le début, c'est la Sainte Trinité. Alors, si on commence par le premier cours de catéchisme à la Sainte Trinité, les gens regardent, ils diront, mais est-ce que c'est que ça? C'est beaucoup trop compliqué. Alors, par contre, si vous commencez avec les sacrements, c'est plus simple. Et du coup, les gens disent, ah, c'est pas mal. Alors, bon, alors du coup, ils restent. Et puis après, une fois qu'ils sont dans le panier, alors là, à ce moment-là, on peut commencer à en parler des différences entre l'aspiration active et passive dans la Sainte Trinité. D'accord? La prière, c'est quoi? C'est la partie qui correspond aux choses qu'il faut savoir demander, savoir désirer. Et encore une fois, ce qu'il faut faire, les commandements, ce qu'il faut croire, le credo, ce qu'il faut désirer, la prière. Donc la prière va nous enseigner qu'est-ce qu'il faut désirer. Rappelez-vous notre Seigneur, les apôtres qui demandent à notre Seigneur, comment faut-il prier? Et qu'est-ce que leur dit notre Seigneur? Il leur donne notre Père. Et c'est la raison pour laquelle le catéchisme, quand il explique justement la prière, de quoi parle-t-il dès le début, il va expliquer les demandes du Pater. C'est ce qu'on appelle les sept demandes du Pater. On va l'expliquer. Les saints ont beaucoup, beaucoup parlé, le texte magnifique de saint Augustin sur le sujet. Donc voilà ici la définition classique, traditionnelle. Prière, élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu pour l'adorer, le remercier, lui demander ce dont nous avons besoin. Élévation, c'est-à-dire qu'on commence par regarder vers le bon Dieu, on élève le regard vers le bon Dieu pour commencer à voir d'où vient l'aide. Le monde moderne va pousser l'homme moderne à ne regarder que vers le bas. Eh bien, l'Église va nous demander de lever les yeux vers le ciel pour que nous sachions demander les choses qu'il faut demander au bon Dieu. Pas demander n'importe quoi. La plupart des gens, c'est ça, là, c'est un peu triste, quoi. Et les gens commencent à prier, évidemment, quand ils sont en train de perdre un match de football, ou avant un match de football, ils vont commencer à prier, ou ils vont commencer à prier dans une compétition sportive quelconque. Ben non, vous voyez, bon, ça ne vous empêche pas de prier dans une compétition sportive, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut apprendre à prier, aimer prier. J'ai toujours été un peu choqué de voir le nombre de gens qui considéraient la prière comme une pénitence. On ne prie pas pour faire pénitence. Toujours refusé de considérer la prière comme une pénitence. Imaginez un époux qui considère que dire à sa femme « je t'aime, je vous aime » c'est une pénitence. Il n'a pas d'amour pour son épouse. Vous voyez, on ne dit pas à son épouse « je vous aime » par pénitence. Bon, il ne faut pas dire « la belle Lafitte m'a donné comme pénitence de dire trois fois à mon épouse « je vous aime ». Alors, donc je vais dire le matin, comme ça, ça sera dit. Alors le matin, il se lève, il envoie sa femme « je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Voilà, allez, hop, maintenant, fini, terminé, on n'en parle plus. Ben non, c'est pas ça. Imaginez quelqu'un qui, si vous voulez, qui considère la prière comme une triste obligation. Comment voulez-vous qu'il aime le bon Dieu? Oui, c'est important. Apprenons, aimons prier, aimons bon. Pour nous, presque, c'est beaucoup plus facile. Non, ici, il y a le Saint-Sacrement là-haut. Donc, mais des grâces pour vivre dans une maison où il y a le Saint-Sacrement, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile. Mais le bon Dieu est partout. Hein. Bon, il est de façon substantielle, avec son corps, son âme et sa divinité. Il est dans le Saint-Sacrement, mais n'oubliez pas que c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin que notre Seigneur Jésus-Christ est aussi partout par sa présence, sa puissance et son essence. Par sa présence, parce qu'il voit tout, il est partout. Par sa puissance, parce qu'il peut tout. Par son essence, parce qu'il est la cause de tout. C'est l'enseignement de saint Thomas. J'ai déjà vu ça, je pense, dans d'autres parties du catéchisme. Et saint Alphonse dit, c'est au milieu de la page 83, « Ceux qui prient se sauvent certainement, ceux qui ne prient pas se damnent certainement. » On peut changer la phrase en disant « Celui qui aime prier se sauve certainement, celui qui n'aime pas prier se damne certainement. » Et donc, c'est pas évident, mais il faut arriver à donner à nos enfants l'amour de la prière. Que les enfants prient, non pas par obligation, qu'ils prient par amour pour le bon Dieu. Hein? Si un enfant apprend à dire à sa maman bonjour le matin, embrasser sa maman, son papa ou ses grands-parents, eh bien, l'enfant le fait parce qu'il faut commencer à l'éduquer à le faire, mais il ne faut pas que l'enfant considère ça comme une pénitence. Encore une fois, imaginez un enfant qui considère que c'est une pénitence de dire bonjour à maman le matin. Ben non! Surtout, n'éduquez pas les enfants comme ça. Il faut expliquer aux enfants qu'un enfant, un âme bien née, demande, dit bonjour le matin au bon Dieu. Il dit bonjour le matin à ses supérieurs dans la maison, à commencer par ses parents. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que nous dit le catéchisme ? Voilà ce que nous dit le catéchisme. Il faut prier matin et soir dans les tentations, les peines et les dangers pour nous-mêmes, nos parents, nos bienfaiteurs, la Sainte Église, les vivants et les morts.